Il est 8h. Ça, c'était l'atmosphère débridée et non masquée des rugbymen français dimanche dernier. L'ambiance est bien retombée depuis avec la multiplication des cas contacts et de contamination au sein du staff. 8 milliards d'euros de pertes chez Renault en 2020. Le constructeur va se tourner vers la mobilité au sens large. Pas seulement les voitures. Et puis, cargo et paquebots vont-ils remplacer leurs moteurs par des voiles? Le transport maritime très polluant commence à faire voguer des prototypes. Juste après le journal, on vous retrouve avec votre invitée Sonia Mabrouk. Bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Mon invitée, la ministre des Armées, Florence Parly, nos soldats au Sahel, les sous-marins du futur et puis on partira aussi dans l'espace, bien sûr. Rendez-vous à 8h15 pour l'interview.
A tout à l'heure.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Tout de suite, le journal de 8h avec vous, François Geffrier. Bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Ils étaient si bien partis qu'on les voyait déjà filer vers un grand chelem au tournoi des Six Nations. Les Bleus du rugby ont retrouvé le plus haut niveau et l'enthousiasme, on vient de l'entendre. Première victoire en une décennie à Dublin, et ce après un large succès à Rome. Mais plutôt que de compter les points et les bonus offensifs ce matin, on calcule les risques de contamination au sein du 15 de France après plusieurs cas positifs dans son staff, et alors qu'il faut rejouer dans 9 jours.
Bonjour Simon Rubin.
Bonjour.
Vous êtes le spécialiste rugby d'Europe 1. Vous suivez les Bleus dans ce tournoi des Six Nations. La Fédération française de rugby essaie déjà de répondre à la question suivante. D'où vient cette contamination?
Et le scénario le plus probable, hein, c'est celui d'une contamination à l'entraînement. La semaine dernière, le 15 de France s'est entraîné avec l'équipe de France de rugby à 7, dont la moitié des joueurs a depuis été testée positive au Covid. L'équipe de France de rugby à 7, hein, qui n'était pas dans une bulle sanitaire aussi stricte que le 15. Et si c'est bien comme ça que Fabien Galthié et deux de ses adjoints ont été contaminés, alors on imagine mal comment tous les joueurs pourraient avoir évité le virus.
Alors Simon, qu'est-ce qui est prévu là très concrètement aujourd'hui du côté du 15 de France?
Alors ce matin, Marcoussi est désert. Le QG du rugby français, d'habitude en effervescence en plein tournoi, a été vidé de quasiment tous ses occupants. Les joueurs sont rentrés chez eux et ont pour consigne de rester à l'isolement. Alors les derniers tests effectués avant-hier sont tous négatifs concernant les joueurs du 15 de France. Mais prudence avec le délai d'incubation du virus, et de nouveaux tests PCR sont prévus aujourd'hui avant une autre batterie de tests et d'analyses dimanche à Marcoussi pour ceux qui seront arrivés jusque-là.
La question qu'on se pose, Simon Rubin, c'est pour la suite. Est-ce que le tournoi, la suite du tournoi Destination est entre parenthèses?
Alors c'est le scénario catastrophe pour le tournoi. Les Français ont peur de perdre tous leurs joueurs, mais les Irlandais également, eux qui ont affronté les Bleus le week-end dernier et qui redoutent d'avoir été contaminés à ce moment-là. Et puis du côté de la Fédération écossaise, prochain adversaire de la France le 28, on n'est pas rassuré, aucune envie de courir le moindre risque. Alors en ce qui concerne les Bleus, tout joueur positif sera privé du match dans 9 jours contre l'Écosse, même en cas de guérison entre-temps, parce qu'on connaît mal les séquelles du Covid associées à la violence des chocs d'un match de rugby, donc on ne prend pas de risque. Potentiellement, c'est tout le groupe, 31 joueurs qu'il faudrait donc remplacer. Alors Fabien Galthié et son staff s'y préparent, même si c'est peu probable d'un point de vue scientifique. Les résultats des nouveaux tests PCR sont attendus demain.
Ouais, le scénario catastrophe, alors que ce tournoi Destination avait si bien commencé. Merci Simon Rubin du service des sports d'Europe 1.
À propos de l'épidémie, ça y est, la barre du million de Français ayant reçu 2 doses de vaccin contre le Covid est franchie. C'est chose faite pour un tiers des résidents des EHPAD, on l'entendait dans le dossier du journal de 7h. Mais prudence toujours face aux contaminations et aux variants qui progressent, avec une décision annoncée hier par Olivier Véran qui concernera toutes les personnes testées positives.
Certaines études scientifiques évoquent la possibilité que les variants puissent être responsables d'une durée de contagiosité plus importante que celle du Covid-19 classique qui circulait jusqu'alors dans le pays. Sans attendre la confirmation, et dans la mesure où la part de variants dans les contaminations est devenue élevée, j'ai décidé que la durée de l'isolement de tous les patients dont un test diagnostique est positif passera à compter de lundi de 7 à 10 jours. Elle restera en revanche de 7 jours pour les cas contacts.
Le ministre de la Santé lors de la conférence de presse hebdomadaire hier soir.
C'est une perte abyssale que vient d'annoncer le groupe Renault pour l'année 2020. 8 milliards d'euros.
Oui, l'équivalent d'ailleurs des pertes cumulées d'Air France, KLM et d'Airbus qu'on vous donnait hier. Alors pour la suite, le constructeur automobile mise sur une meilleure rentabilité de chaque modèle ainsi que sur des nouveautés, la R5 électrique. Mais une autre nouveauté pourrait être cruciale. Aurélien Fleureau, c'est l'entité appelée Mobilize, avec un Z, qui va permettre la diversification du constructeur.
Oui, dans le plan stratégique présenté il y a un mois par Luca De Meo, Mobilize était cité en dernier, après les piliers, Renault évidemment, un pôle Dacia Lada, des voitures plus abordables, Alpine pour le sport, et donc ce quatrième axe qui réunit les différentes initiatives qui doivent transformer le constructeur automobile en fournisseur de mobilité. La voiture individuelle a encore de beaux jours devant elle, mais elle ne peut plus être la seule alternative offerte. Autopartage, livraison du dernier kilomètre, berline adaptée au service de VTC, recyclage des batteries, mais aussi modèle de financement innovant. Voilà tout le panel proposé, sans oublier la gestion des données des voitures connectées. De quoi permettre la transformation de Renault. C'est en tout cas l'objectif de Luca De Meo.
Je dis que Renault, on va en faire un constructeur de voitures profitables qui intègre de la tech. On va le tourner en entreprise technologique qui intègre des véhicules.
Mobilize a pour ambition de générer 20% du chiffre d'affaires de Renault d'ici 2025. C'est d'ailleurs la directrice financière du groupe Clotilde Delbos qui a été nommée à sa tête.
Aurélien Fleureau, spécialiste transport, on va dire spécialiste mobilité donc d'Europe 1.
Dans l'actualité aussi, il y a cette accusation de viol. Une enquête est ouverte, elle vise Patrick Poivre d'Arvor.
Oui, accusée donc de viol par l'écrivaine Florence Porcel. Elle dénonce dans un livre des faits survenus en 2004 à TF1, dont le journaliste présentait le 20h à l'époque, et en 2009 aussi d'une société de production. PPDA parle d'une dénonciation calomnieuse.
Venons-en à cette innovation dont on vous parlait dans les titres, innovation assez frappante, des bateaux à voile XXL, destinés non pas à la plaisance ou à la course au large, mais bien au transport de marchandises.
Oui, un peu d'écologie et un peu d'économie de carburant. On observe en ce moment une vraie compétition, plusieurs initiatives et prototypes de voiliers cargo. C'est ainsi qu'une cargaison de cacao a été livrée à Nantes il y a deux jours.
Bonjour Charles Guyard.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant dans l'Ouest. On écoute votre reportage car vous avez pu faire la visite de ce bateau.
Nous voilà là dans la cale du navire.
Ici, 33 tonnes de cacao attendent d'être déchargées et l'odeur enivrante se diffuse jusque sur le pont duquel s'élèvent deux grands mâts où sont hissées les voiles.
Quand on est pleinement abattu, on monte à peu près à 650 mètres carrés de voile.
Une surface de voile qui, gonflée par le vent, a permis au capitaine Loïc Briand de ramener à une allure appréciable des Caraïbes ce fameux cacao destiné à faire des tablettes de chocolat en Bretagne. Objectif, montrer que le transport à la voile n'engendre pas de surcoût démesuré par rapport au cargo à moteur et surtout qu'il est bien moins polluant.
Le surcoût de ce transport à la voile, c'est 10 centimes par tablette. Une tablette transportée à la voile, on va émettre 17 fois moins de CO2. À l'aller, entre Saint-Malo et New York, on a consommé 40 litres de gasoil.
New York, qui était en fait la première étape du périple où le bateau a acheminé à l'aller 15 000 bouteilles de vin bio, le tout donc grâce aux alizés. Une prouesse qui a forcé l'admiration d'un spécialiste du genre, Alain Roura, skipper du Vendée Globe, frôlé au beau milieu de l'Atlantique le temps d'un bref échange radio.
Et il était assez surpris de nous voir en fait. Il pensait pas qu'un bateau de 90 tonnes pouvait avoir ces vitesses-là.
Parti de Saint-Malo le 18 novembre, le voilier est donc arrivé mercredi soir à Nantes. À son bord, quatre membres d'équipage qui reprendront le large en avril.
Alors Charles Guyard, on va le dire quand même, le transport maritime, c'est le mauvais élève en regard de l'accord de Paris sur le climat, accord dont il avait été exclu. Alors les chantiers de Saint-Nazaire, chantiers navals, eux se sont penchés aussi sur cette question de l'impact environnemental. La preuve, cette semaine, Charles, on y a présenté un sacré prototype.
En effet, les chantiers navals ont tout simplement ressuscité ce qui a fait ses preuves des siècles durant en matière maritime, la bonne vieille voile. Enfin, le concept de voile plutôt, où le tissu sera remplacé par du composite bien plus résistant, monté sur un immense mât. C'est le projet Solid Sail présenté cette semaine. Cet été, un prototype de 40 mètres de haut doit ainsi être inauguré à Saint-Nazaire. Suivra un second de 80 mètres en 2022 qui pourra lui supporter plus de 1000 mètres carrés de voilure. De quoi faire avancer des paquebots XXL et leurs milliers de croisiéristes sur les mers du globe. Mais cette propulsion à voile commence également à séduire des multinationales œuvrant sur plusieurs continents, comme Michelin, qui a ainsi conclu un accord avec Neoline, c'est une société nantaise, pour utiliser son futur cargo à voile, lequel opérera entre Halifax et Saint-Nazaire. Et en 2022, avant de s'envoler vers les étoiles, eh bien c'est par la mer que la fusée Ariane sera acheminée en Guyane sur un navire en cours de construction. Il sera lui aussi poussé par le vent.
Dossier complet signé Charles Guyard depuis l'Ouest avec Virginie Salmen.
Persévérance a atterri en douceur sur Mars et transmis une première photo. Persévérance, c'est cette mission de la NASA qui veut rechercher des traces de vie passées sur la planète rouge. Échantillons qui seront collectés en espérant qu'une autre expédition puisse venir les récupérer dans les années 2030. Alors tout ça devrait être le fait de machines et de robots. Mais au fait, quand est-ce que des humains poseront le pied sur Mars ? La question a été posée hier soir au patron de la NASA, Steve Jurczyk. Voilà, réponse à peu près approximative, hein, vous l'entendez, entre le milieu et la fin des années 2030, nous commencerons peut-être à utiliser les moyens qui nous servent à aller sur la Lune pour aller vers Mars.
La Terre a rendez-vous avec Mars, ça nous rappelle une chanson.
Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant.
Charles Trenet, qui avait donné au soleil un rendez-vous avec la lune, Trenet, disparu il y a tout juste 20 ans. Le fou chantant, comme on le surnommait, personnage mythique. On ne sait pas s'il rêvait d'aller sur Mars, mais il avait parlé de ses rêves à Jean-Pierre Elkabbach.
Moi, je chante des choses qui sont plus ou moins rêvées, parce que quand je dors la nuit, je ne rêve jamais. Et j'ai la faculté de rêver dans la journée ou de rêver quand j'écris. Mes chansons proviennent de rêves éveillés.
Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie.
Imperturbablement, vous chantez l'enthousiasme et il y a de la joie.
Oui, j'ai même parfois le sentiment que c'est un devoir aussi, étant donné que l'époque n'est pas tellement joyeuse, que les gens viennent aussi pour oublier, pour rêver joyeusement. Et alors à ce moment-là, cela me met en joie vraiment, et je chante « Il y a de la joie » avec plaisir et avec vérité.
Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit.
Charles Trenet, il y a de la joie, une bonne phrase à garder en tête pour votre week-end, qui arrive ensoleillé et doux, c'est
voilà.
Cadeau.
Et qui est Charles Trenet qui disait que l'époque n'était pas très joyeuse. Voilà, il y a des points communs aussi avec aujourd'hui. Merci François Geffrier, 8h11.
Europe 1, Sébastien Krebs.
À suivre, Sonia Mabrouk et son invitée ce matin, la ministre des Armées, Florence Parly. À tout de suite.
Europe Matin,
le 7-9,
Sébastien Krebs.
8h13 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invitée, la ministre des Armées, Florence Parly.
Bienvenue à vous et bonjour Florence Parly.
Bonjour.
Prenons tout de suite la direction de Mars. On a suivi hier la prouesse du robot de la NASA, Perseverance, après les fameuses 7 minutes de terreur. Et il y a désormais un bout de France sur la planète Mars ?
Absolument. Cet événement, c'est une aventure qui nous a fait rêver et qui nous a fait, pendant quelques instants, un peu oublier aussi ce monde plein de Covid dans lequel nous vivons. L'espace fait rêver, Mars fait rêver, parce que c'est une question existentielle. Y a-t-il eu de la vie sur Mars ? Et pour y répondre, la France a apporté sa petite pierre avec une super cam qui va certainement aider les scientifiques à comprendre et analyser ce qui s'est passé sur Mars il y a sans doute des millions d'années. Oui, donc c'était un magnifique moment et au fond qui nous rappelle que l'espace, c'est aussi notre quotidien. Parce qu'aujourd'hui, pour écouter Europe 1, sans doute un certain nombre de vos auditeurs le font sur leur smartphone. Et pour cela, ils ont besoin de l'espace, des satellites. Et nous utilisons tous les jours entre 10 et 40 satellites. Et donc, il faut protéger cela. Et c'est aussi le rôle du ministère des Armées que de s'y intéresser.
Des armées aussi de l'espace, parce que l'espace est convoité par les puissances qui investissent dans le spatial militaire. La France a-t-elle, Madame la Ministre, une autonomie d'action pour mener justement des opérations spatiales militaires ?
Alors, c'est en effet tout le sujet, puisque nous avons découvert, au fond, qu'il se passait parfois dans l'espace des choses assez inamicales et qu'un certain nombre de nos satellites pouvaient être approchés, éventuellement menacés. Et donc, il faut aussi s'adapter à cette nouvelle donne. Et c'est pour ça que le président de la République m'a demandé d'élaborer une stratégie spatiale militaire et que cette stratégie consiste à dire que nous allons donc nous protéger et éventuellement nous protéger de façon active. Et nous allons investir pour cela, puisque la loi de programmation militaire qu'il a voulu et qui s'applique et se déroule année après année comme prévu, ce qui est inédit, prévoit plus de 4 milliards d'euros d'investissement pour le spatial parce que nous renouvelons la totalité de nos capacités satellitaires qui sont indispensables aux militaires comme elles le sont à nous tous dans la vie civile. Parce que pour se géolocaliser, pour communiquer, pour pouvoir observer aussi et obtenir du renseignement, il faut pouvoir disposer sans cesse de ces capacités spatiales.
Alors on va passer de l'espace au fond des mers, puisque dans quelques heures, vous vous rendrez au centre d'essai de la Direction Générale de l'Armement Technique Hydrodynamique, c'est à Val-de-Reuil, pour y annoncer un programme de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de troisième génération. Est-ce que ce sont ceux qui vont assurer la permanence de la dissuasion nucléaire océanique ?
Tout à fait, tout à fait. Le général de Gaulle avait lancé, au fond, ce grand programme de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Le premier a été mis à l'eau en 1967. Et depuis cette date, eh bien, la France tient la permanence à la mer. Alors, il s'agit d'un enjeu majeur, puisqu'il s'agit de notre dissuasion. Et notre dissuasion, bien, c'est notre assurance-vie. C'est ce qui nous garantit, au fond, notre indépendance. Et cette troisième génération de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, eh bien, elle rentrera en service en partir de 2035. Enfin, en tout cas, le premier sera livré en 2035. Le dernier en 2050. Et donc, cela veut dire que ces sous-marins vogueront sous les flots jusqu'en 2090. Donc, c'est un investissement du temps long et qui va nous permettre eh bien, de disposer de technologies plus avancées, d'avoir des sous-marins plus furtifs, plus silencieux. C'est extrêmement important. Et au-delà du caractère très stratégique pour notre pays, pour sa souveraineté, c'est aussi un projet majeur sur le plan industriel, sur le plan technologique, parce que nous avons des savoir-faire extraordinaires.
Bien sûr, c'est l'excellence et la compétence
française. Il faut imaginer que ce sous-marin
française.
Nucléaire, il est propulsé bien sûr par une centrale nucléaire qui est sous les eaux, et que par ailleurs, il dispose de l'équivalent d'une base de lancement, comme si c'était un petit courroux qui était capable, sous l'eau, de lancer 16 missiles nucléaires. Donc c'est un bijou de technologie. Nous avons ces savoir-faire, et nous avons des entreprises capables eh bien, de réaliser ces prouesses.
Mmh. Bijoux de technologie, madame la ministre, et armes de dissuasion, parce que récemment, et là je parle d'une autre génération, mais un sous-marin français d'attaque a patrouillé en mer de Chine méridionale, dans un contexte, on le sait, de tensions croissantes dans cette zone qui est revendiquée par Pékin. Quel message vous avez envoyé là ?
Bien, tout d'abord, là aussi, c'est une prouesse technique parce que nous avons envoyé un équipage, enfin un sous-marin nucléaire d'attaque pendant 8 mois en mission à plus de 15 000 kilomètres des côtes françaises. Donc, c'est vraiment un exploit pour tous ceux qui ont réalisé cela.
Et puis,
c'est aussi un message. Oui. C'est un message parce que dans des zones où il y a de fortes tensions, où il y a des contestations auxquelles d'ailleurs nous ne prenons pas part, nous voulons revendiquer de manière ferme qu'il y a un droit, le droit international, et que la liberté de navigation, c'est extrêmement
malgré
important.
Malgré les tensions, hein, grandissantes.
Malgré les tensions, ouais. Il faut pouvoir faire prévaloir ce droit. Donc c'est une navigation de présence, c'est un symbole de présence qui marque notre attachement dans une région indo-pacifique à laquelle la France est partie prenante, puisque nous sommes une nation indo-pacifique. Nous avons la deuxième zone économique exclusive la plus grande au monde, 11 millions de kilomètres carrés, dont 9...
Et la France ne compte pas
dont
se
9
retirer.
Sont, oui. sont dans cette mm-hmm. région. Donc nous sommes vraiment une nation qui construit une stratégie indo-pacifique parce que nous en faisons partie, et nous avons pensé que après avoir envoyé d'autres types de bateaux, eh bien envoyer le sous-marin nucléaire d'attaque, c'était aussi un message.
Alors, autre symbole, Florence Parly, et outil évidemment majeur de dissuasion nucléaire, le porte-avions Charles de Gaulle. Vous confirmez, Madame la Ministre, dans le cadre de l'opération Chamal, qu'il sera dans quelques jours, peut-être quelques semaines, dans le golfe arabo-persique ?
Absolument, il va bientôt partir pour une mission de quelques mois. Et c'est une mission qui est d'abord orientée sur la lutte contre le terrorisme. Il va donc rejoindre, en effet, la zone du Levant, le canal de Syrie, pour participer à la coalition internationale contre le Sahel. La France est le deuxième contributeur à cette opération, et le porte-avions va donc joindre ses efforts à ceux que nos aviateurs réalisent déjà.
Quand vous dites efforts, c'est-à-dire les avions Rafale,
c'est-à-dire que les avions
Rafale
qui sont embarqués sur le porte-avions vont permettre d'accroître encore le renseignement que nos avions Rafale basés en Jordanie collectent déjà, et puis éventuellement frappent également, puisque ces avions sont amenés de façon régulière à frapper.
Et de plus en plus, Madame la Ministre, parce que la question qui est essentielle, c'est est-ce que Daesh en Syrie, quelques années à peine après la mise en déroute de ce qui avait été appelé le califat, est-ce que Daesh est en train de se restructurer avec à la fois financement et armement ?
Ce que nous voyons, c'est en effet une résurgence de Daesh, et c'est inquiétant. Daesh avait été défait territorialement au début de l'année 2019, c'était la fin du califat. Daesh est rentré dans la clandestinité, mais Daesh a reconstitué des capacités d'action qui sont sans doute moins visibles, mais qui néanmoins le deviennent de plus en plus, puisqu'il y a eu encore très récemment des attaques à Bagdad, dans la ville de Bagdad, qui a fait de nombreuses victimes civiles, des attaques contre des emprises de la coalition, et l'on voit aussi qu'en Syrie, eh bien, Daesh reprend du terrain. Donc c'est une menace qui demeure, et c'est la raison pour laquelle nous sommes attachés à pouvoir poursuivre ces opérations dans le cadre de la coalition internationale. Alors, souvenons-nous que les attentats qui ont eu lieu en France ont été organisés, pensés en 2015 à partir de la zone irako-syrienne.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Daesh en Syrie a les moyens de projeter des attaques sur le sol occidental et notamment européen ?
Il faut éviter que Daesh ne retrouve des moyens qu'elle a perdu, parce que la coalition internationale a beaucoup œuvré pour cela, mais il faut éviter de revenir à une situation que nous avons pu connaître dans le passé.
Au Sahel, Emmanuel Macron a annoncé que la France n'allait pas réduire, en tous les cas dans l'immédiat, les effectifs militaires de Barkhane, malgré, Florence Parly, les questionnements, y compris dans l'opinion publique française. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement ce matin quelles conséquences majeures aurait un retrait français rapide du Sahel ?
Tout d'abord, je voudrais rappeler pourquoi la France est au Sahel.
Certains l'ont oublié.
Eh bien, parfois, il faut le répéter.
Et à je qui pense
à tous, à nous tous. Il
y
est
compris
normal
aux soldats sur place.
Mais non, pas du tout. Mais il est normal dans un monde où notre attention est portée essentiellement sur la crise sanitaire, le Covid, la manière d'y répondre, que parfois ce qui se passe à des milliers de kilomètres de chez nous soit un peu perdu de vue et ne se rappelle à nous finalement que lorsqu'il y a des drames, et il en est arrivé il y a encore quelques semaines. Donc il faut rappeler pourquoi nous sommes là-bas. Et nous sommes là-bas parce que d'abord les États du Sahel nous l'ont demandé. Le Mali nous l'a demandé. Et nous y sommes aussi parce que ce que nous ne voulons pas, c'est que Daesh et Al-Qaïda, dont nous venons de parler, qui ont leur filiale, si je puis dire, au Sahel, eh bien que ces groupes terroristes qui sont au Sahel affiliés à Daesh et Al-Qaïda ne reconstituent ou ne constituent des bases arrières dont la taille ne cesse de grandir, puisque vous avez sans doute entendu aussi que ces mouvements cherchent à descendre vers le sud, vers des pays qui se trouvent en bordure du golfe de Guinée. Et donc, cette emprise croissante, quel est son objectif ? C'est d'assujettir des populations à une loi qui est la loi de la charia, et c'est aussi faire prévaloir un projet qui est un projet directement orienté contre ce que nous sommes.
Donc à ceux qui disent, Florence Parly, est-ce que c'est à la France de régler les problèmes au Sahel ? Vous dites, mais ce sont nos problèmes.
Ce sont nos problèmes et le Sahel, c'est la frontière sud de l'Europe. Et donc c'est la sécurité de l'Europe qui est en cause. Et c'est aussi ça, je crois, que les Européens ont compris.
Oui,
et c'est
surtout les Français, Madame la Ministre, parce que les Européens, on ne les voit pas beaucoup.
Les Européens nous rejoignent. Il y a plus de 2500 Européens qui sont au Sahel en ce moment et nous avons constitué une force pour combattre auprès des militaires maliens.
Mais c'est de la logistique, Madame Parly.
Ce n'est pas de la logistique. Là, je vous parle de la force Takuba. C'est une force combattante qui est constituée de forces spéciales européennes et qui combat avec les forces maliennes. Et cette force est en train de monter en puissance. Nous avons déjà 9 pays qui ont accepté de s'engager. Nous en avons 3 sur le terrain. Et je suis en discussion régulière avec d'autres pays de l'Union européenne ou du continent européen qui sont prêtes, en tout cas qui manifestent de l'intérêt pour nous rejoindre.
Ce matin, en vous écoutant, on se rend compte que c'est une menace prégnante. Parce que là, il y a quelques jours, c'était début février, le patron de la Direction générale de la sécurité extérieure, de la DGSE, qui parle très très rarement, Bernard Rémy, estimait que l'un des objectifs de ces djihadistes, ce n'est pas seulement le djihad local, mais malheureusement des attaques possibles sur notre sol.
C'est un projet international. Je l'ai dit, ces filiales au Sahel sont rattachées à des grandes organisations terroristes, Al-Qaïda et Daesh, qui ont un agenda international.
Donc il y a une jonction aujourd'hui entre ce qu'il n'y avait pas, Madame la Ministre. On pensait que c'était un djihad local il y a encore quelques temps. Ça, il y a une jonction avec.
C'est un djihad qui utilise un certain nombre de fragilités locales, par exemple des tensions communautaires. Mais son projet dépasse évidemment ce territoire strict du Sahel pour pouvoir se développer le plus largement possible et faire prévaloir sa loi. Mmh. Et sa loi, nous n'en voulons pas.
Bien sûr, deux questions.
Et les populations maliennes, je ne crois pas que, elles acceptent
elles
avec bonheur les exactions nombreuses que ces organisations terroristes commettent contre elles. Donc elles sont les premières victimes de ces organisations
deux
terroristes.
Deux questions d'actualité, si vous permettez, pour terminer, très importantes. Sur le statut de nos soldats, la Cour de justice européenne, Madame la ministre, pourrait contraindre la France à appliquer à nos soldats les principes du droit de travail européen, comme si les militaires étaient des travailleurs comme les autres. La France va s'y opposer.
Nous avons travaillé depuis des mois pour expliquer les raisons pour lesquelles une armée qui est engagée comme la nôtre dans de nombreux théâtres, qui est une armée en opération, ne peut pas être considérée comme une armée de temps de paix où les militaires sont dans des bureaux. Non, ils sont à l'entraînement, ils se préparent opérationnellement pour pouvoir ensuite être projetés. Et c'est cela que nous voulons évidemment préserver.
Dernière question, Joe Biden, le président américain, a esquissé sa vision de la relation transatlantique. Changement bien sûr sur la forme dans les années Trump, mais nous ne sommes pas naïfs.
Nous sommes heureux de voir que les États-Unis ont manifesté leur intention de se réengager dans le lien transatlantique et c'est une très bonne nouvelle.
Merci Florence Parly d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée à vous et à nos auditeurs bien sûr.
Le Sahel, la frontière sud de l'Europe, a dit la ministre des Armées pour réaffirmer l'importance de la présence française en Afrique. Merci à vous Florence Parly. 8h28.
Europe 1, Sébastien Krebs.
À suivre, nouveau point sur l'info avec Hélène Zellani, notre santé, Jimmy Mohamed, notre planète avec Fanny Agostini. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
8h30 sur Europe 1, nouveau point sur l'info, Hélène Zellani.
Patrick Poivre d'Arvor à son tour dans l'œil du cyclone. L'écrivaine Florence Porcel a porté plainte contre lui pour viol, des faits qui se seraient déroulés en 2004 et 2009. Une enquête préliminaire est ouverte. L'ancien présentateur du 20h compte porter plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse. Il récuse fermement ces accusations qui, selon lui, Guillaume Bié, arrive à point nommé pour promouvoir le livre de la plaignante.
Oui, un roman fraîchement publié dans lequel Florence Porcel raconte son histoire, transposée dans le milieu du cinéma et sans jamais nommer son agresseur. Mais en réalité, c'est bien l'ancienne star du 20h qu'elle accuse de viol. Une première fois en 2004, lorsque jeune écrivaine de 21 ans, elle le rencontre après son JT à TF1. À l'époque, elle est en convalescence après une tumeur au cerveau et elle n'avait jamais eu d'expérience sexuelle. Une agression qui, si elle venait à être confirmée, est aujourd'hui prescrite. En revanche, ça n'est pas le cas du second viol dénoncé par Florence Porcel. Il aurait eu lieu en 2009 à l'occasion d'un entretien pour ses études. Il faut savoir qu'entre ces deux faits allégués, la jeune femme a entretenu des échanges avec Patrick Poivre d'Arvor et qu'ils auraient même eu une relation cette fois consentie, affirme-t-elle, évoquant durant toutes ces années une emprise de l'admiration et du déni. À l'heure où la parole se libère, elle a décidé de porter plainte. La police judiciaire parisienne est saisie d'une enquête depuis mercredi, d'après nos informations. Donc la plaignante n'a pas encore été entendue, encore moins PPDA qui n'a pas répondu à nos sollicitations.
Guillaume Bié, Georges Tron va se pourvoir en cassation après sa condamnation à 3 ans de prison pour viol. L'ex-secrétaire d'État demande aussi sa remise en liberté. L'heure n'est pas au relâchement, c'est ce que disait Olivier Véran hier soir. Le ministre de la Santé annonce que dès lundi, toute personne contaminée devra rester en isolement 10 jours au lieu de 7. Il donne également ce chiffre, le variant anglais représente désormais 36% des cas positifs, un variant particulièrement présent à Dunkerque où la campagne de dépistage se poursuit aujourd'hui. Parmi les foyers de contamination, le commissariat, plus d'un tiers des policiers sont soit malades, soit cas contact. Maximilien Carlier.
À l'extérieur, dans la cour, des véhicules de police à l'arrêt, plus que d'habitude, on diminue les patrouilles. Julien Sauté, chef de la sûreté urbaine de Dunkerque.
Les contrôles routiers, on en fait un petit peu moins, par exemple, ça c'est évident. On se contente vraiment des appels essentiels. Donc, si on a 3 appels en même temps, un pour violence conjugale et 2 pour différents voisinages ou tapage nocturne, on va se concentrer sur les violences conjugales.
Les cas urgents avant tout, pour les brigades et services, effectifs divisés par 2, et parfois il faut combler les absences.
On a les motards qui font aujourd'hui le secrétariat du commissaire pour nous aider à justement gérer les trous. Pour l'instant, on arrive encore à fonctionner. Je dirais pas normalement, mais en tout cas, on fonctionne encore bien malgré la situation.
Car sur les 300 policiers, il y a 120 malades ou cas contact. Pourquoi autant ? Ludovic Riquier, délégué Alliance Police Nationale.
Nous, on a été alertés sur une désinfection qui était à peu près à la légère dans nos locaux. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a le plus de cas positifs dans l'administratif et dans les collègues qui travaillent dans les bureaux.
C'est une des raisons qui explique le cluster dans ce commissariat qui a accueilli en milieu de semaine une vingtaine de policiers lillois en renfort. Dunkerque, Maximilien Carlier, Europe 1.
Alors que la France vient de passer le million de personnes ayant reçu les deux doses de vaccin, le Vatican lance un avertissement très clair à ses employés. S'ils ne se font pas vacciner, ils risquent de lourdes sanctions, Blandine Hugonnet, et même la perte de leur emploi.
Et oui, c'est ce qu'on peut lire dans un décret publié par le Saint-Siège. Un employé du pape qui refuse d'être vacciné risque des conséquences pouvant aller jusqu'au licenciement. Autrement dit, le Vatican impose désormais le vaccin sous peine de sanctions et pourtant, officiellement, la piqûre contre le Covid n'y est pas obligatoire. Ça fait évidemment beaucoup réagir ici au sein du plus petit état du monde. Parmi ces 5000 résidents et travailleurs, certains dénoncent un flicage, un manque de respect de la liberté de choisir. Le Saint-Siège se défend de vouloir instaurer une forme de répression. Il estime que refuser le vaccin, c'est mettre en danger la santé des autres. C'est en tout cas de la part du Vatican une attaque de plus contre les anti-vaccins. Avant même le début de la campagne de vaccination du Saint-Siège mi-janvier, le pape François avait accusé les opposants au vaccin de négationnisme suicidaire. Le chef de l'Église catholique de 84 ans a d'ailleurs été un des premiers à se faire administrer une dose du vaccin Pfizer derrière les murs du Vatican.
Blandine Hugonnet à Rome pour Europe 1. Ça va mal pour Renault. La marque aux losanges enregistre une perte historique de 8 milliards d'euros en 2020. Conséquence de la crise sanitaire, mais pas seulement. Renault, déjà mal en point, avait annoncé un plan d'économie de plus de 2 milliards d'euros sur 3 ans, avec quelques 15 000 suppressions de postes dans le monde. En revanche, ça roule pour Perseverance, le robot de la NASA qui s'est magnifiquement posé sur Mars hier soir. Il doit ramasser des échantillons de roches qui permettront de savoir s'il y a eu une vie sur la planète rouge. Et cela notamment grâce à Supercam, un engin conçu à l'IRAP à Toulouse, l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie. Son responsable Sylvestre Maurice n'en revient toujours pas.
On se sent mieux, beaucoup, beaucoup mieux. C'est tellement incroyable. Ça y est, on est à la surface, on a entendu que le signal était très bon, on est stable. La première image est arrivée, une image comme on les aime de ces paysages, ces minérales, hein, c'est de la roche, du sable, l'ombre du rover au-dessus de nous, puisque c'était pris par des caméras qui sont très basses. Cette preuve par l'image qu'on est bien à la surface, oui.
Maintenant, au travail pour le robot ?
Oui, au travail. On va parler à l'instrument en disant « tu vas bien ?» On espère qu'il va nous répondre « je vais bien ». Voilà, et maintenant, il faut quand même vérifier que tous ces systèmes aient survécu à toute cette entrée, ces chocs. Donc, je savoure chaque étape. Ça, c'était celle de l'atterrissage. Elle était très importante. Et dans les jours qui viennent, je me réangoisserai de nouveau pour la prochaine étape, la mise en route de l'instrument.
L'astrophysicien Sylvestre Maurice, joint par Hélène Terzian. La NASA promet de publier lundi une vidéo inédite de la descente vertigineuse de Persévérance. Avoir la tête en l'air, savoir ce qui se passe sur Mars, ça fait du bien en cette période compliquée. On n'a qu'une envie, prendre l'air, comme cette famille de la banlieue parisienne qui a décidé à la dernière minute de faire ses bagages direction la mer. Damien Mestre l'a rencontré.
On regarde par la fenêtre, on dit qu'il fait vraiment très moche. On aimerait bien aller se balader, mais pas en bas de la maison, quoi.
C'est au réveil, sur un coup de tête, que Sandrine a fini par réserver des vacances. 4 jours à la Baule, en bord de mer avec son mari et son fils. Visiblement, ça devenait nécessaire.
Une envie de changer d'air. Chaos, fatigué, et puis le fait de faire juste boulot, maison, je crois que vraiment, il y a un grand ras-le-bol.
Elle a tout préparé, sans rien dire à son mari, qui de toute façon était déjà convaincu.
Je crois qu'il a même pas regardé ce que je lui ai envoyé. Il m'a dit tout de suite, ok, il faut absolument qu'on parte.
Tout comme son fils, Axel, 15 ans, jogging et paire de chaussettes.
Je suis très content de partir, parce que je reste enfermé pendant une semaine.
Jusqu'à présent, il était vissé derrière son écran. Des vacances studieuse à suivre des cours de soutien.
C'est multiplié par l'inverse de la fraction.
Alors il a besoin de s'aérer l'esprit. Les maths en visio, ça commence à être long.
C'est en deux parties, le matin et l'après-midi. Ça m'énerve un peu, mais c'est pas grave.
Ouais, vivement la mer, quoi.
Oui, vraiment, j'ai très très hâte.
Une fois au bord de l'eau, il s'est déjà promis de n'avoir ni téléphone, ni ordinateur.
Et de quoi se payer des vacances de rêve. Nouveau record pour l'euro million. 202 millions d'euros sont mis en jeu aujourd'hui. Il n'y avait pas eu de grand gagnant pour les 7 précédents tirages. La Fédération française de tennis a un nouveau président, Gilles Moreton, élu pour 4 ans. Cet ancien joueur était l'invité de Théo Manval ce matin à 6h40. Quand il entend que les festivals de l'été pourront se tenir avec 5000 personnes assises, il garde espoir pour Roland Garros qui commence en mai.
On a en extérieur trois stades qui font pour l'un 15 000, l'autre 10 000 places et l'autre 5 000. On proposera tout ce qu'on peut proposer, mais on peut être confiant parce qu'on a un stade qui est vaste et sur le plan sanitaire, on devrait pouvoir assurer une jauge raisonnable.
Et Europe 1 sera cette année encore la radio officielle de Roland Garros avec des émissions en direct pendant toute la quinzaine. Notez-le, du 17 mai au 6 juin.
Allez, on espère que ce sera Roland Garros le plus normal possible cette année.
Oui.
Hélène Zellani pour le journal. Il est 8h38. Vivement la mer, disait ce vacancier dans le reportage à l'instant, Laurent Cabrol. C'est vrai qu'il va faire très beau ce week-end.
Il va faire très beau, il va faire plus doux que sur Mars. J'ai regardé, sur Mars, il fait moins 63 degrés.
Ah oui, effectivement.
Et nous aurons des valeurs de 12 à 20 degrés. Aujourd'hui déjà, ce sera le cas. Et puis, ce sera même le cas avec 1 degré de plus demain et après-demain. Donc, vous voyez, ce sont vraiment des conditions sympathiques. Alors, nous avons deux poches de pluie. Parce qu'en ce moment, il n'y paraît guère, hein, chers amis. Si vous êtes au-dessus d'une couche de grisaille, vous dites, tiens, il se trompe, ça ne va pas. Non. Ne bougez pas, ça va se dégager dans le courant de la matinée, les éclaircies vont apparaître, etc. Il y a même des petites bruines, des petites pluies ici ou là. Donc, ce sera du beau temps progressivement dans l'après-midi et des températures entre 12 et 20 degrés, mais surtout deux petites poches de pluie qui vont subsister, l'une en Bretagne et sur le Cotentin, avec des petites pluies passagères, et l'autre dans le golfe du Lion. Là, c'est la mer qui nous envoie ces petites bruines marines. C'est tout. Demain, ce sera à peu près la même chose, avec quand même de belles éclaircies et surtout des températures en hausse de 1 degré. Et puis dimanche, nous aurons exactement le même type de temps qu'aujourd'hui, mais le soleil sera là beaucoup plus rapidement et les brouillards s'en iront. En un clin d'œil.
En un clin d'œil. Merci Laurent Cabrol, merci à vous. 9h20 sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
Et on prend soin les uns des autres chaque matin. Fanny Agostini est là pour notre planète. D'abord, on s'intéresse à notre santé. Avec vous, docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
On parle d'une pathologie très fréquente ce matin, l'arthrose. Arthrose qui aurait tendance à s'aggraver plus on est inactif.
Exactement. Alors l'arthrose, c'est la pathologie articulaire la plus fréquente au monde. C'est 10 millions de Français qui en souffrent. Et ce n'est pas qu'une pathologie de la personne âgée. Elle va toucher toutes les tranches d'âge et peut commencer vers 40 ans. Alors on sait qu'il y a plusieurs facteurs de risque d'avoir de l'arthrose. Le premier, évidemment, c'est l'âge. Il y a un petit peu l'hérédité pour certaines localisations, notamment au niveau de vos mains. Si jamais vos parents faisaient de l'arthrose, vous avez un peu plus de risque d'en faire vous aussi. Mais il y a aussi deux choses, le surpoids et l'obésité, qui sont des facteurs de risque majeurs de l'arthrose pour plusieurs raisons. Le premier, c'est une histoire mécanique. Plus vous avez du poids qui va être important sur des genoux, plus les contraintes vont être importantes. Et puis, quand vous êtes en surpoids, vous allez synthétiser des molécules inflammatoires qui vont contribuer à aggraver la destruction de votre cartilage. Et puis, il y a une chose particulière, c'est que durant les deux confinements qu'on a pu avoir et le couvre-feu, eh bien, les Français ont eu plus de douleurs articulaires. Et les rhumatologues rapportent que les patients ont beaucoup plus souffert depuis le début du Covid, car finalement, l'inactivité, eh bien, c'est l'ennemi de nos articulations.
Alors, donc la solution, on l'a compris, il faut bouger.
Exactement. L'activité physique, ça devrait être la première chose qu'on vous propose en cas d'arthrose avant même de prendre un paracétamol. Alors, pour plusieurs raisons. La première, vous le savez, quand vous avez un lumbago, quand vous avez le dos bloqué, on vous dit qu'il faut bouger. Eh bien, c'est exactement pareil avec l'arthrose ou toute autre pathologie rhumatismale. Ça va vous permettre de lutter contre la raideur de vos articulations. Et on sait que l'activité physique va avoir plusieurs bénéfices. Le sport va vous permettre de produire des molécules anti-inflammatoires qui vont réduire l'évolution de la maladie et même la douleur. Et puis par la même occasion, vous allez peut-être perdre un petit peu de poids. Sachez que si vous perdez simplement 5% de votre poids, eh bien vous allez voir votre arthrose diminuer. Vous allez avoir moins de douleur. En ce qui concerne le sport, faites celui qui vous fait plaisir. Si c'est la course à pied, pourquoi pas? Vous pouvez aussi faire du vélo, du yoga, du stretching. Bref, peu importe l'activité physique, il y a évidemment des médicaments, mais il faut bien comprendre que ce doit être une solution temporaire. En revanche, ce qui peut vous aider, ce sont les kinésithérapeutes qui vont justement vous permettre de prendre soin de vos articulations et de vous accompagner dans cette reprise de l'activité physique.
Et bien voilà, on retient votre conseil. Le sport, meilleur remède, mieux que les médicaments contre l'arthrose. Sans rendez-vous à 15h, Jimmy, avec un sujet autour des conflits en famille.
Exactement, vous allez voir qu'on n'est pas obligé de faire la bagarre pour s'aimer en famille et qu'on peut résoudre des petits conflits avec des solutions du quotidien. Soyez au rendez-vous.
15h avec Mélanie Gomez en rendez-vous. À tout à l'heure. Jimmy Mohamed, merci à vous. Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il y a des solutions positives, des pratiques qui changent les choses pour notre planète. Vous les mettez en lumière chaque matin. Aujourd'hui, une initiative très aboutie qui produit des effets réels contre le gaspillage alimentaire.
Effectivement, je vous emmène à Marseille ce matin pour vous faire découvrir une initiative qui a vu le jour fin 2020. Il s'agit de l'association Fruits et Légumes Solidarité. Alors, qu'y a-t-il de neuf et d'inédit dans la démarche? Eh bien, l'idée est l'installation d'un atelier de transformation directement situé dans le marché des Arnavaux à Marseille. Et quel atelier en termes de transformation alimentaire? C'est le plus grand et le plus polyvalent de France. Sa construction a d'ailleurs coûté près de 800 000 euros au conseil départemental. Et la particularité, c'est que les aliments invendus sur le marché sont transformés et mis en bocaux sur place. Et cela fait toute la différence par rapport aux autres banques alimentaires qui n'ont souvent pas les moyens de transformer et d'écouler les produits rapidement. Car d'ordinaire, les aliments sont donnés à la banque lorsqu'ils sont frais et ils doivent être distribués frais. Il n'est donc pas rare qu'elles doivent jeter jusqu'à 20% des produits reçus, d'où l'importance d'avoir un atelier à grande capacité de transformation et deux, qu'il soit directement situé dans le marché le plus important du département.
Si je comprends bien, Fanny, c'est une usine de transformation des invendus qui est située à l'intérieur même du marché.
C'est ça, les produits frais dont se débarrassent les grossistes sont triés sur place. Ceux qui sont suffisamment robustes servent à l'aide alimentaire directe. Ceux qui le sont moins sont mis sous vide, congelés ou stérilisés en bocaux, ce qui facilite leur stockage et leur distribution plus tard dans les banques alimentaires, par exemple à la Fondation de l'Armée du Salut ou aux épiceries solidaires.
Un outil de solidarité qui a d'autant plus de sens et d'importance en ce moment dans cette période de crise.
C'est ça. Avec la pandémie, les ONG alertent sur le fait que la ville de Marseille est au bord de l'urgence humanitaire. La banque alimentaire du département a dû distribuer 4700 tonnes d'aliments en 2020. C'est 1000 tonnes de plus qu'en 2019. Or, l'association Fruits et Légumes Solidarité espère que d'ici 3 ans, elle sera capable d'absorber la moitié des invendus chaque année. Le modèle économique est aussi très très ingénieux car un tiers des produits est à destination du grand public pour assurer son autonomie financière et donc la rémunération du personnel. L'avantage d'avoir un atelier qui récupère les invendus directement sur le marché, c'est que les produits sont frais et de bonne qualité et ils sont donc très intéressants aussi à la vente. Cet atelier flambant neuf devrait très rapidement inspirer d'autres départements et collectivités pour allier solidarité, emploi et lutte contre le gaspillage alimentaire.
Et voilà, une solution, des solutions à travers la France chaque matin avec vous, Fanny Agostini, pour mieux protéger notre planète. À lundi, on va retrouver Nicolas Canteloup, bien sûr, pour le meilleur de la revue de presse dans quelques secondes. Mais d'abord, c'est le moment de notre respiration musicale. On écoute le monde chanter avec vous, Angèle Châtelier. Bonjour, qu'est-ce qu'on chante
aujourd'hui ? Bonjour Sébastien, vous souvenez peut-être des Frérots de la Vega.
Eh bien,
Jérémy Frérot, l'un des membres du groupe, dévoile aujourd'hui son deuxième album en solo. C'est quoi un homme au
pire, au mieux perdu. Et vous nous le faites découvrir dans quelques secondes. À tout de suite, Angèle Châtelier.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
8h47, on écoute le monde chanter avec vous, Angèle Châtelier. Et on découvre ce nouvel album de Jérémy Frérot, l'ancienne moitié donc des Frérots de la Vega.
Un album plus apaisé que son premier, sorti en 2018, appelé Matrioshka, qui marquait surtout la rupture avec son binôme Florian de la Vega. Mais Jérémy Frérot est bel et bien de retour avec Meilleure Vie, son deuxième album.
Le temps n'aura pas suffi, une bande de potes, c'est terrible. Rien ni personne nous dévie, on se sent indestructible. Dans les délires de la nuit, jusqu'au sourire du matin, une toute petite pièce suffit à vivre notre meilleure vie.
Et oui, Jérémy Frérot vit sa meilleure vie car il me l'a confié pour son premier album solo. Il n'avait pas vraiment confiance en lui. Mais alors la scène, se confronter à son public, lui a prouvé qu'il valait quelque chose et qu'on l'attendait. Alors le fil rouge de ses 15 titres, c'est bien l'optimisme, la positive attitude. Dans sa chanson « La naissance », par exemple, il évoque le bonheur de l'arrivée d'un enfant.
C'est tellement beau le monde quand vient le début de l'histoire, avant même la mémoire. C'est tellement grand le monde quand entre pour la première fois en criant aux éclats. On fera comme on veut.
Jérémy Frérot voulait montrer à son public qu'il est plus confiant, plus heureux.
Oui, et ça, on le comprend surtout lorsqu'on écoute la piste qui clôture ce nouvel album, appelé Le Regain. Écoutez.
Je me sens mieux, je me sens bien. J'ai ce que je veux, j'ai ce qui me rappelle d'où je viens.
Il est tout seul derrière cet album, Jérémy Frérot ?
Non, il s'est entouré de trois artistes. Ben Mazuet, Laurent Lamarca et le rappeur Vincha. Il a travaillé avec eux par écran interposé pendant le confinement et a eu envie de tester plus de choses, sortir de sa zone de confort, c'est ce qu'il m'a révélé.
Cette période me donne envie d'être encore meilleur, d'où le titre de l'album. C'est vraiment l'envie de montrer une certaine joie de vivre, une certaine envie de partager des choses avec les gens, peut-être de manière différente par rapport à ce qu'on faisait avant.
La vague arrive et ça déborde. J'ai l'océan à mes pieds.
Et dans cet album, Jérémy Frérot, il y a des chansons qui ont une histoire plus particulière que d'autres.
C'est vraiment des moments. Je vais endormir mon fils. Quelquefois, je vais chanter J'ai la mer.
J'ai la mer au-dessus de mon âme. J'ai la mer au-dessus de mes pensées.
Et l'album était prêt cet été. Et donc j'avais la chanson Le Pestacle de fête. Et quand on avait le droit d'aller dans des bars, et bien, Le Pestacle est un bar à vin que j'ai ouvert. Je la mettais à 1h30 du matin pour ambiancer un peu les gens.
Si la vie est un miracle.
Bon, on a compris ce qu'il a fait de son été, Jérémy
il
Frérot.
Il a fait la fête
à l'époque où on avait le droit
voilà,
d'aller dans les bars.
Il a bien raison. Alors Jérémy Frérot est aussi un musicien éco-responsable. Il a fait en sorte que son album soit fabriqué en France. Et ce matin, il lance un appel sur Europe 1.
Ça va être la première fois que je fais un appel, mais je risque d'appeler certaines salles, même toutes les salles de concert dans lesquelles je vais aller quand j'aurai le droit de jouer, pour discuter avec eux des manières de faire ce concert, de faire les concerts. Notamment, il y en a une que j'ai découvert qui était hyper facile à faire, c'est appeler pour le compteur électrique et passer à l'énergie verte. C'est un truc hyper facile à faire, il y a un clic à faire sur internet et c'est incroyable de se dire qu'on sait pas ça mais on peut le faire et ça va régler plein de choses. Donc voilà, les salles, préparez-vous à ce que je vous appelle.
Tant que resteront les fleurs dans nos ardeurs.
Vous l'aurez compris donc, Jérémy Frérot est plus à l'aise avec lui-même, ses convictions et sa musique, même si parfois c'est difficile d'être un homme. C'est ce qu'il nous chante dans ce nouvel album. On écoute son titre, Un homme sur Europe 1.
Regarde comme je suis, un carré de points. Je vis, je veux, j'oublie, comme toi, ni plus ni moins. Regarde comme je crie, comme je ris aux éclats. Je cours, je crée, je brille, je sais, je ne sais pas. Toi tu veux un homme, toi tu veux un père. Tu me dis ralentis, tu me dis accélère. Et plus je te suis, et plus je te perds. Dis-moi, dis-moi, pour toi c'est quoi? Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi? Un homme pour toi. Un peu dur, un peu fragile. Un peu libre, un peu docile. Un peu fort, un peu sensible. Un peu fou, un peu tranquille. Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Moi je change, tant de jeu. Lancer, je m'avance, je trouve de la place, me crée d'autres espaces. Je te suis, j'invente, je me réinvente. Je suis, je m'efface, le feu et la glace. Moi je veux être un frère, un pote, un amant. Un phare, un repère, et j'en veux autant. Et plus j'ai d'envie, et plus je me perds. Si tu sais, dis-moi, pour toi c'est quoi? Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi? Un homme pour toi.
Jérémy Frérot sur Europe 1. Un homme, extrait donc de ce nouvel album, Angèle Châtelier, qui s'appelle Meilleure Vie.
Oui, merci Sébastien, bon week-end.
Bon week-end à vous, 8h53 sur Europe 1. Merci pour cette semaine de musique, Angèle Châtelier. Dès lundi, on retrouvera Nicolas Canteloup en direct pour la revue de presque dès 8h40. Allez, un petit bout du meilleur de la revue de presque tout de suite avec Julie.
C'est presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup en best-of. Emmanuel Macron va s'expliquer ce soir, va-t-il annoncer un couvre-feu? On l'accueille tout de suite, bonjour Monsieur le Président. C'est
Ici l'Élysée. Le gouvernement parle au français. Zatout, t'es à tous. Le couvre-feu est décrété.
Mais enfin, monsieur Macron, qu'est-ce que vous faites?
Ah, ben là, je m'entraîne. C'est un couvre-feu, ça a forcément donné une petite couleur vintage, genre milieu du XXe siècle. Oui, non, non. D'ailleurs, je vous prends un témoin, je vois que ça rend bien, ça donne bien à l'oreille.
Essayez encore.
Ici l'Élysée. Les restaurants sont fermés. Je répète, les restaurants sont fermés. Des tickets de rationnement vous seront distribués par la maréchaussée compétente. Ils vous donneront droit à 2 kilos de salsifi par semaine, un topinambour et une miche de pain.
Bon. Monsieur Cabrol, vous qui avez vécu ça, ça rend pas trop mal.
On va parler tennis. L'édition de Roland-Garros 2020 est vraiment très particulière. Plus le temps passe, plus les conditions empirent. Bonjour Nelson Montfort.
Oui, bonjour Madame Julie, est-ce que vous m'entendez? Je n'ai pas de masque. Je parle doucement, excusez-moi, car je ne voudrais pas, comme hier, que les joueurs me prennent pour cible et me lancent des balles, car je parlerai trop fort. Alors que nous avons à l'instant un échange de la magnifique revers, très très beau revers, que nous avons à l'instant pleine ligne. Vraiment.
Tiens, passe-moi une balle, on va faire.
Non. Raté. Oui, écoutez, oui, mais jeune homme, il faut tenir compte du vent, hein. Oui, vous en parliez. Le temps empire, mais vous le voyez, on s'adapte entre deux bourrasques. Déjà, bonne nouvelle, les joueurs français gardent leurs fondamentaux. Gaël Monfils aurait pu être déstabilisé par ces mauvaises conditions. Le vent aurait pu ramener ses balles dans le cours, mais non. Gaël a su trouver les ressources pour satelliser la plupart de ses balles dans les bâches. Bravo Gaël!
Tiens, une bonne nouvelle, le gouvernement a autorisé dès ce vendredi la vente des sapins de Noël. Bonjour Madame Royale.
Oui, bonjour.
Ben c'est bien, non? C'est bien, c'est une bonne nouvelle.
Oui, c'est... Non, écoutez, c'est scandaleux.
Quoi?
Pendant des semaines, des sapins seront décimés dans des conditions d'abattage barbare. Sans anesthésie. Ah. Est-ce que vous avez une idée de la souffrance sapinière, Mme Leclerc? Vous avez déjà entendu le long cri du sapin le soir au fond des bois?
Vous avez trouvé que ça pour être contre le gouvernement? Franchement.
Oui, c'est vrai. Faut dire que. Sur dire que c'est calme en ce moment, hein. Je préviens à l'avance. L'année dernière, je m'y suis pris trop tard. Donc là, je préviens à l'avance. Je vous rappelle que je suis seul pour les fêtes. Voilà, j'ai prévenu. Voilà, il reste 5 places. Hein, appelez-moi ou écrivez. Hein, même si vous êtes un pigeon parisien ou un chat errant, je prends quand même.
On viendra. Le vaccin anti-Covid développé par Pfizer ne fait pas l'unanimité. Le laboratoire est d'ailleurs l'objet
excusez-moi.
De méfiance.
Excusez-moi de vous interrompre, cher Daniel Gilbert. Mais je vous entendais parler du laboratoire Pfizer.
Oui.
Ils ont un vaccin contre le Covid.
Oui,
c'est fantastique. Vous savez que c'est le laboratoire des génies qui ont développé le Viagra. C'est un très bon laboratoire, très efficace. Ah oui, très efficace. Grâce à eux, j'ai 20 ans depuis 60 ans.
Oui, écoutez, on se passera de ce genre de réflexion, hein, d'accord?
Sur un autre temps, jeune fille. Dites-vous bien que si on arrête cette épidémie un jour, ce sera grâce à moi. Parce que je vais vous dire, j'en ai consommé beaucoup.
Oui, on a compris.
Du Viagra. Du coup, à chaque fois que j'ai pécho, ça finançait la recherche, quelque part. Bon. Merci, bébé.
Oui, peut-être. Mais en attendant, c'est pas sûr que ce vaccin ait du succès. Hein. Les Français se méfient de l'industrie pharmaceutique.
Oui, en attendant, la France se méfie de l'industrie pharmaceutique. Oui. En attendant, la France est un des pays du monde qui consomme le plus de médicaments.
C'est vrai, oui.
Mais ils croient quoi, les Français? que le Doliprane, ça pousse dans les champs de luzerne, hein, que chaque printemps, on va cueillir du Nurofen, que le Smecta, on l'obtient en trayant une vache. Non, et l'hydroxychloroquine, que tout le monde réclamait, elle n'est pas récoltée à la main par Fanny Agostini. Non, tout ça, c'est fait par les sociétés pharmaceutiques. Alors, soyons cohérents jusqu'au bout. Bon, écoutez, je vous laisse, chère Marie, embrasser votre leader de la matinée, Jean Roucas, pour moi.
Nicolas Canteloup, sur Europe 1, en direct, bien sûr, dès lundi pour la revue de presse. Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Sébastien.
Quel est le programme de Culture Média ?
Alors notre info média du jour, c'est la nouvelle formule du magazine Les Échos Week-end, une des réussites de la presse papier. Il faut toujours signaler quand ça réussit dans la presse papier. On en parle avec quelqu'un qu'on connaît bien ici, c'est Nicolas Barré, qu'on retrouve dans la matinale d'Europe 1 pour son éclairage écho. Il est le directeur de la rédaction des Échos, cette fois-ci avec un H, Les Échos. Au sommaire également, une nouvelle émission de santé pour Michel Simès, elle s'appelle Antidote. Elle promet d'être divertissante tout en apportant des connaissances, qui est un peu différent des émissions anxiogènes. On en parle avec le producteur du magazine Benoît Thévenet et le mentaliste star Fabien Olicard. Et puis aussi la comédienne Sonia Roland pour la deuxième saison, c'est donc que ça marche, de la série policière Tropique Criminelle sur France 2. Et puis enfin, on va donner des nouvelles de Gala, pas l'hebdomadaire, mais celle qui chantait ça. Vous vous souvenez ?
Ah oui, oui, je me souviens, oui.
Et bien vous saurez à 10h40 ce qu'elle va faire. A tout de suite.
A tout de suite Philippe Vandel pour Culture Média.